Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 15h en temps universel, 17h à Beyrouth.
Victor Moria.
Les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne continuent, notamment à la frontière entre les deux pays. Mais l'armée israélienne a provoqué le déplacement de près d'un million de personnes et l'économie du pays du Cèdre en pâtit dangereusement. Reportage dans un instant. Le Premier ministre japonais perd son pari et sa majorité. Selon les premiers résultats des élections législatives japonaises, il pourrait même devoir former une nouvelle coalition pour se maintenir au pouvoir. Et puis, le Washington Post ne soutiendra aucun candidat à la présidentielle du 5 novembre, un fait rare pour un média américain. Et enfin du football, après le Classico espagnol hier soir, c'est le classique français. Ce dimanche soir, Marseille reçoit le Paris Saint-Germain. Au Liban, l'armée israélienne affirme avoir visé des dizaines d'infrastructures du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit. Ce matin, le porte-parole de l'armée appelle les habitants de 14 villages du sud du Liban à évacuer au nord de l'Awali, affirmant que ses troupes allaient attaquer des infrastructures ou des combattants du Hezbollah. Le Hezbollah qui affirme avoir visé à 11h un rassemblement de soldats israéliens au nord-est de la localité de Manara avec des drones en piqué faisant des morts et des blessés, disent-ils, mais aussi avoir bombardé une base militaire au nord de Haïfa en Israël. Après plus d'un mois de conflit, les conséquences pour la population libanaise sont énormes. Plus de 2000 morts, près d'un million de déplacés. Une cargaison d'aide humanitaire offerte par la Jordanie a été réceptionnée ce matin à l'aéroport international de Beyrouth. Mais le prix de certains produits du quotidien ont augmenté et les transferts d'argent atteignent des sommets. Reportage à Beyrouth, Pierre-Olivier Jadelcoury.
Déjà confrontés à une vaste crise économique depuis 5 ans, les Libanais voient avec la guerre les prix grimper encore un peu.
En tant que femme de maison, je fais mes courses tous les jours. Chaque chose a augmenté. Les légumes, les fruits, les médicaments, les choses importées aussi évidemment. Et j'achète seulement le nécessaire.
Aucune donnée chiffrée n'a pour l'instant été publiée sur l'inflation des prix liés à la guerre, déjà bien ressentie par les consommateurs. Pour tenter de limiter ses effets, ce boucher n'accepte plus que les billets verts.
Grâce au dollar, on a une stabilité des prix. On continue d'importer notre viande comme d'habitude. On l'achète en dollars, mais on la vend en dollars. Dans ma caisse, il n'y a pas de livre libanaise. Dollar, dollar.
Dollarisation de l'économie et inflation entraînent une forte hausse des transferts d'argent, comme le constate ce gérant d'une agence.
Les transferts ont augmenté de 70%, surtout en provenance d'Europe et d'Afrique. Il y a beaucoup de déplacés qui ont besoin d'argent pour louer des logements à des prix exorbitants. Même les transferts à l'intérieur du Liban explosent. Il faut dire que plutôt que de risquer de transporter de l'argent par la route, les membres d'une même famille préfèrent payer quelques dollars de frais de transfert.
Avant même que la guerre ne commence, en un an, la hausse des prix a augmenté de 33% au Liban et pourrait atteindre de nouveaux sommets dans les mois qui viennent. Jadelcoury, Pierre-Olivier, Beyrouth, RFI.
Il faudra faire des concessions douloureuses pour libérer les otages retenus encore dans la bande de Gaza. Les mots ce dimanche de Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense. Tous les objectifs ne peuvent être atteints uniquement par des opérations militaires, dit-il. Une déclaration qui intervient alors que l'espoir renaît pour des négociations entre le Hamas palestinien et l'État hébreu. Après un an de guerre et de discussions infructueuses, le chef du Mossad doit rencontrer ce dimanche au Qatar son homologue de la CIA ainsi que le premier ministre qatarien. Les pourparlers visent à amener Israël et le Hamas à accepter un cessez-le-feu à Gaza qui dure moins d'un mois dans l'espoir qu'il débouche plus tard sur un accord permanent. Mais à Ramat HaSharon, dans le centre d'Israël, c'est justement devant une base des services extérieurs israéliens qu'un camion a percuté une station de bus, faisant au moins un mort et une vingtaine de blessés, dont quatre dans un état grave. Selon la police, le chauffeur du camion a été neutralisé. C'est pourtant lui qui avait convoqué ces élections. Le nouveau Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a perdu son pari et sa majorité à la chambre basse du Parlement après les législatives de dimanche. C'est une première depuis 2009. Les bureaux de vote ont fermé il y a quelques heures et le PLD n'est même pas sûr de maintenir sa coalition au pouvoir. Ce serait inédit dans l'histoire de ce parti qui a réussi à se maintenir à la tête du pays pendant la quasi-totalité de ses 69 années d'existence. Mais récemment, plusieurs scandales politico-financiers ont entaché son image auprès des électeurs. Tokyo, Frédéric Charles.
Les Japonais infligent au Parti conservateur une déroute électorale. Les têtes tombent, certains des barons du parti perdent leur siège. Son partenaire du Komeito est lui aussi fragilisé. Les Japonais font payer à la coalition au pouvoir la hausse de l'inflation. La baisse de leur pouvoir d'achat leur donne un sentiment d'appauvrissement. Le Parti conservateur doit aussi sa défaite à un scandale de caisse noire, de financement illégal du parti lui-même. Ses liens avec l'Église de l'Unification, ou secte Moon, très controversée. Le Premier ministre Shigeru Ishiba voit son avenir politique compromis. Pour se maintenir au pouvoir, son parti devra tenter de créer une plus large coalition. Ce n'est pas évident, et ça limitera sa capacité d'action. Le gouvernement risque d'être paralysé. Une période d'incertitude et de vide politique s'ouvre au Japon. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
C'est la crise au Washington Post. À 11 jours de la présidentielle américaine, la direction du journal refuse d'apporter son soutien à Kamala Harris ou à Donald Trump. Soutenir un candidat, c'est une tradition dans la presse américaine, mais cette année électorale n'est décidément pas comme les autres. Éclairage sur l'attitude de la presse américaine à l'approche du 5 novembre avec Christophe Paget.
Mercredi, on apprend que le milliardaire propriétaire du Los Angeles Times a bloqué le soutien du comité éditorial à Kamala Harris. Vendredi, c'est le directeur du Washington Post qui annonce que, pour la première fois depuis 36 ans, le quotidien, plutôt marqué à gauche, ne soutiendra aucun candidat. Le journal est la propriété de Jeff Bezos, autre milliardaire, patron d'Amazon. Pour Robert Kagan, qui siégeait au comité éditorial du quotidien et qui, comme d'autres, vient de démissionner, la raison est évidente, il l'a dit sur CNN.
C'est clairement une volonté de Jeff Bezos de s'attirer les faveurs de Donald Trump en prévision de sa possible victoire. Trump a menacé par le passé de s'en prendre aux affaires de Bezos. Bezos dirige une des plus grandes compagnies du pays, compagnie qui a des liens très importants avec le gouvernement fédéral. Ils dépendent de lui. Et Trump a été clair, il attaquera les groupes de médias qui le critiquent. Il a menacé de supprimer la licence de CBS. Donc si on veut savoir de quelle manière Trump va bâillonner la presse libre, c'est la réponse, particulièrement quand le média est la propriété de géants de l'industrie qui ont beaucoup à perdre si Trump est en colère après eux.
D'autres journaux respectent encore la tradition. Le New York Times, le Boston Globe ou encore le magazine Rolling Stone soutiennent Kamala Harris. Le New York Post et le Washington Times, Donald Trump.
Christophe Paget, Cyril Ramaphosa salue la publication des résultats préliminaires des élections générales au Mozambique. Le président sud-africain félicite le président élu, Daniel Chapo, et son parti, le Frelimo, arrivé en tête avec plus de 70% des voix. Ramaphosa exprime toutefois son inquiétude face à la violence post-électorale qui aurait fait au moins 10 morts, d'après les ONG locales. Le président sud-africain appelle les forces de l'ordre à enquêter rapidement pour traduire les responsables en justice et réaffirme l'engagement de l'Afrique du Sud à soutenir la paix au Mozambique. Du football, pour terminer ce journal, avec un choc de la 9e journée de Ligue 1 qui se jouera ce soir entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le fameux classique du championnat entre les deux clubs rivaux et qui cette saison paraît plus indécis que lors des précédentes. Entre un PSG moins impressionnant qui n'a plus Kylian Mbappé et une équipe marseillaise en progression, l'écart entre les deux équipes semble donc s'être réduit. Mais côté parisien, on s'efforce tout de même de rester confiant. Reportage dans les rues de la capitale française avec Cédric de Oliveira.
Pour les supporters parisiens, affronter Marseille, c'est toujours un événement. Et même si la rivalité n'est plus la même que dans les années 90, elle est bien présente dans leurs esprits.
C'est une tradition. C'est la tradition. On m'a toujours élevé comme ça, c'est tout. Ça changera pas.
C'est comme ça. Hein. On peut pas se les voir. Ils sont insupportables. Normalement, on y va, on gagne, c'est tout. Même pas de question.
Avec son nouvel entraîneur innovant Roberto De Zerbi, l'OM a pourtant montré de belles choses depuis le début de la saison. Mais ça n'empêche pas les fans du PSG d'être confiants. Pour eux, impossible de perdre au Vélodrome.
Ah oui, c'est même pas concevable de toute façon. Sinon, il va y avoir du ménage.
On a hâte, mais c'est au Vélodrome. Pareil, c'est notre ambiance, on sait très bien comment on va être accueilli.
Marseille, il y a quoi? Cette année, ils ont une belle équipe, ouais, ça recommence, mais il y a quoi? Paris, normalement, c'est taillé pour la Ligue des Champions.
Peu rassurant cette semaine en Ligue des Champions contre Eindhoven, le PSG compte donc sur ce classique pour se remettre la tête à l'endroit. Présent au club depuis 2013, le capitaine Marquinhos sait à quel point ce match pourrait être un des tournants de la saison.
On sait que c'est le match le plus important de la saison. Et moi, c'est ma deuxième saison, je sais comment c'est important ce match-là. Les classicos, ça se joue pas, je pense qu'il va falloir aller là-bas et gagner et ramener cette victoire à la maison pour nos supporters.
Et le défenseur brésilien sait obtenir de bons résultats au Vélodrome en Ligue 1. Il n'a jamais perdu dans le chaudron marseillais. La dernière défaite parisienne en championnat a eu lieu en 2011.
Cédric De Oliveira, Marseille-PSG, coup d'envoi 19h45, temps universel. Dans les autres matchs cet après-midi, Lyon mène pour l'instant 1-0 face à Auxerre. À 16h, TU, Nice-Monaco, Montpellier-Toulouse et Strasbourg-Nantes. Sachez également qu'en Angleterre, Chelsea et Newcastle font match nul un partout. West Ham-Manchester United 0-0, c'est la deuxième période. Et ce soir, 16h30, temps universel, Arsenal 4e reçoit Liverpool 2e. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans moins d'une heure.